On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On vous embarque sur Pigouille Radio. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un lieu emblématique en pleine renaissance, la laiterie coopérative de Saint-Jean-de-l'Iversé en Charente-Maritime. Fermée depuis les années 90, cette laiterie, qui fut dans les années 50 l'une des plus grandes coopératives de l'ONIS, reprend vie sous le nom de la Nouvelle Laiterie. Mais ce n'est plus seulement une laiterie. Désormais, ce lieu historique se transforme en un véritable espace de solidarité et d'échange, réunissant acteurs de l'économie sociale et solidaire, associations et habitants du territoire. Alors, installez-vous confortablement, on vous raconte l'histoire de cette renaissance et les belles initiatives qui l'animent aujourd'hui.
Bonjour, je suis Stéphanie Thézière, je travaille pour la SCOP Atemporel qui est basée à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, je suis là pour faire revivre un peu l'histoire de la nouvelle laiterie, donc de l'ancienne laiterie avant qu'elle soit transformée. Donc là, j'étais venue au mois de janvier, le 30 janvier, ici dans les mêmes locaux, pour présenter aussi l'histoire de ce lieu magnifique.
Vous savez combien il y a de laiteries aujourd'hui ?
Tout à l'heure, j'évoquais en tout cas celle qui est en Deux-Sèvres, qui fête aussi ses 130 ans aujourd'hui, la laiterie de Saint-Loup. Mais il y en a encore d'autres, mais elles sont regroupées maintenant au sein de gros groupes plus importants. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. J'aime bien ce genre de lieu où justement on essaie de vivre autrement, d'accompagner les gens aussi dans leur démarche, d'être solidaire, d'être bienveillant. Et ça manque un petit peu aujourd'hui dans la société en général. Donc je trouve ça très bien qu'ils le fassent ici. Oui, j'étais surprise de voir autant de monde. Surtout que j'avais déjà fait une visite au mois de janvier. Donc c'est plutôt chouette de voir les gens et même les anciens salariés revenir sur les lieux. Il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup d'émotions je pense.
Oui. En fait dans une laiterie, on collecte le lait. Et donc on va en faire soit du beurre, soit du fromage, voire même différentes productions dans le même lieu. Juste pour la petite histoire, en ce moment j'ai ma collègue qui est à Saint-Loup-sur-Touet pour la fromagerie. Donc ça a commencé un peu comme ici, avec de la collecte de lait, puis après ils sont dirigés vers le lait de chèvre et le fromage de chèvre. Mais vous voyez, une laiterie et le mouvement de surgère, c'est vraiment associé au lait, donc avec le produit, le beurre, on a le beurre de surgère encore aujourd'hui.
Oui.
Ça peut se comprendre, oui.
Approximativement, ça s'étendait sur quelle zone alors ?
Alors, géographique, on est surtout sur l'Aunis et quand on Saint-Onge et on peut remonter vers le Poitou, puisque finalement on retrouve quand même de nombreuses laiteries fondées vraiment dans cette dernière décennie du 19e siècle et la première décennie du 20e siècle. Et ceux qui sont à l'origine de ces fondations, c'est soit en effet des regroupements de cultivateurs qui veulent créer leur coopérative, ou bien des industriels, des hommes qui ont un peu d'argent et qui décident de faire ceci, ou bien même des propriétaires privés. Donc on a aussi cette concurrence entre les coopératives laitières et les laiteries privées.
Bonjour.
Vous venez d'où comme ça ?
De Maran.
De Maran.
Et qu'est-ce que vous faites ici ce matin ?
Moi je représente les Pictons, le centre socio-culturel de Maran. Je suis dans le conseil d'administration, donc on est venu aussi voir la visite de la laiterie, que je ne connaissais pas.
Pour ma part, moi je fais partie du club vélo Nice Atlantique, et puis je suis inscrite aussi à l'heure civique, et je suis très intéressée par tout ce qui est du domaine social. Rencontrer des gens, rencontrer les structures, comment ça peut fonctionner ensemble.
Non, je venais voir surtout le bâtiment et ce qu'ils recevaient en fait, la friperie et aussi la cuisine, enfin plein d'ateliers aussi, de choses assez... J'étais assez curieuse.
Vous avez vu, on a fait le tour du bâtiment et vous avez pu observer quand même les aménagements plus récents qui sont venus se coller sur le bâtiment historique. Et parce que la laiterie, elle a fonctionné jusqu'en 2006 et là, c'est l'arrêt total. Mais ça n'est pas resté vain comme arrêt puisqu'il y a eu vraiment une envie de faire quelque chose avec ce lieu qui était qui était très important d'un point de vue historique, vous l'avez compris, puisque c'était quand même parmi l'une des sept plus grandes laiteries de la région dans les années 1950. Donc il ne fallait pas laisser perdre ce monument historique, mais ce monument aussi patrimonial, ce monument culturel et ce monument mémoriel presque, parce que derrière les murs, finalement, il y a eu des gens qui sont venus travailler. Et ça, c'est important, parce que ce soit même, on pourrait imaginer, repenser également à tous les fermiers qu'il y avait autour, parce que le lait, on parle de la laiterie, mais au départ, il vient bien de la ferme. Donc, il faut aussi rendre hommage à tous les producteurs de lait qu'il y avait dans la région. Le laitier, qui est celui qui allait chercher le lait. Donc, au départ, ce sont des gens qui sont à leur compte avant d'être intégrés dans l'entreprise. Donc, ils ont parfois leur propre cheval, leur propre charrette hein, pour aller chercher, collecter le lait dans les fermes, dans des bidons, avant les camions. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vous parle d'un temps que vous n'avez pas connu, je pense. Et ces bidons étaient apportés à la laiterie. Et la laiterie, elle est aussi bien pensée pour pouvoir faciliter les choses. Vous avez remarqué qu'on est sur un axe routier, mais aussi proche de la gare. Et ça, dès qu'il y a la voie ferrée, tout de suite, ça permet une expansion économique plus intéressante parce que le produit peut être diffusé plus loin. Tout à l'heure, je vous parlais de ce mouvement de surgère et de ces différentes coopératives. Eh bien, dès 1892, donc 2 ans après la création de celle-ci, eh bien, à Niort se fonde l'Union laitière, donc une association qui a permis de regrouper les producteurs de l'Ouest, donc ici aussi, et ils ont mis en commun justement des wagons réfrigérés. Donc on pouvait plus facilement atteindre la capitale grâce à ces wagons réfrigérés pour pouvoir vendre le beurre à Paris. Parce qu'évidemment, si on dégote un marché où il y a une grosse population, automatiquement, on va vendre beaucoup de beurre. C'était intéressant. Et quand on parle aussi localement, eh bien, il faut penser à tous ceux qui faisaient les petites cagettes pour expédier le beurre. Hein, ben, au départ, il était vendu en motte, donc dans une petite cagette, pour bien l'entourer, bien le protéger. Et là, on touche vraiment une économie locale. Nous sommes dans le Marais Poitevin. Il y a des scieries et il y a du peuplier. Et le peuplier, donc il y en a même une à Saint-Jean-de-Liversais, le peuplier se déroule très bien pour faire les petites cagettes. Donc les bidons de lait, les laitiers, les petites cagettes, le peuplier, les scieries. Donc tout ça travaille aussi autour de la laiterie. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça va toujours ?
Ça va toujours.
Vous remarquerez aussi un petit détail qui est un témoin aussi de l'activité, donc le petit transformateur. Tout à l'heure, vous verrez, ou peut-être que vous avez déjà vu, à l'intérieur de la laiterie, il y a une diffusion d'un diaporama avec des anciennes cartes postales sur lesquelles vous verrez une cheminée. Puisque avant le transformateur, la cheminée était essentielle pour la machine à vapeur qui entraînait toutes les machines. Vous précisez également qu'il y a aussi des avancées techniques à ce moment-là qui permettent également de produire plus et de produire mieux, puisqu'on a la centrifugeuse écrémeuse qui permet de bien séparer la crème. Et on va aussi avoir le malaxeur et la baratte qui deviennent mécaniques, alors qu'avant tout ça était fait à force de bras. Et quand on sépare justement la crème, eh bien on a ce petit lait écrémé qui au départ ne sert à rien et qui va être dans un premier temps restitué au cultivateur pour nourrir le bétail et plus particulièrement les cochons et bien souvent les laiteries ont à proximité une porcherie pour aussi élever les cochons. C'est une source de rendement supplémentaire.
Et puis, il faut bien se diversifier. Donc là, je vous ai parlé du beurre, puisque ici, c'est avant tout le beurre que l'on a produit. Mais à partir des années 1930, on se diversifie vers la caséine. Donc, on a un bâtiment qui s'appelle la caséinerie et qui permet de produire, alors notamment une sorte de fromage écrémé que l'on peut utiliser pour les pizzas notamment, mais pas que, dans les fromages allégés. Et surtout, il y a une autre partie qui peut être industrielle. Donc la caséine, elle est soit alimentaire, soit industrielle. Et quand elle est industrielle, elle sert pour faire de la colle ou bien pour faire des objets comme des boutons, des peignes, des petits bijoux. Donc c'est la fameuse pierre de lait, la galalite. Je ne sais pas si cela vous parle. Pour certains, je pense, et certaines, c'est quelque chose qui a été connu, mais ça dépend en fait. Donc là, on est dans les années 1930 et 1950. Eh bien, on va aussi continuer à se diversifier en faisant de la poudre de lait. Donc, on a une sorte de silo, si vous voulez, qui était le bâtiment pour faire le spray, ça s'appelle le spray. Et donc, on va réaliser du lait en poudre qui va lui aussi être expédié, exporté, etc. Donc, on est resté sur ces produits-là, sur la laiterie, en tout cas dans un temps relativement ancien. Peut-être que ceux qui sont parmi vous qui ont connu la laiterie en activité, vous avez peut-être d'autres témoignages à apporter, évidemment. Vous l'avez peut-être vu en arrivant, la façade, puisqu'on est sur deux parties bien distinctes. Quand je parlais de 1890, la première laiterie, elle était plutôt de ce côté-ci. Et en 1905, on a l'autre partie qui est beaucoup plus identifiable, avec justement le bandeau qui indique la fonction du bâtiment. Et qu'on retrouve dans n'importe quelle autre commune. Dès qu'on a une laiterie, elles sont facilement reconnaissables par leur architecture, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir un outil de travail adapté. Donc le bâtiment doit aussi être adapté. On ne mélange pas la caséinerie avec l'espace où on expédie le beurre, les bureaux, etc. Donc tout est bien séparé. Les machines ne sont pas non plus, la machine à vapeur n'est pas non plus au même niveau. Et donc les architectes ont rapidement trouvé le bâtiment idéal. Et ils ont forcément écrit sur le bâtiment idéal. Et par le biais de revues, partout en France, on pouvait construire une laiterie selon ce modèle adapté. On peut faire la comparaison aussi avec les écoles ou les mairies de la fin du 19e siècle, les fameuses écoles dites Jules Ferry, parce que forcément le gouvernement a aussi écrit sur le bâtiment idéal où on devait avoir suffisamment d'air et pour l'hygiène. Et dans une laiterie, l'hygiène est aussi primordiale. Et donc on avait aussi le carrelage qui allait bien pour pouvoir nettoyer facilement les pièces. Et aujourd'hui, vous êtes conviés à cette nouvelle laiterie. Donc on a pris soin de garder le mot laiterie parce que je pense que c'était cher. Tout à l'heure, je parlais de patrimoine mémoriel. Donc c'était quelque chose d'important de conserver l'appellation du bâtiment pour évoquer sa fonction primitive. Et cette renaissance, elle a commencé en 2015 pour une inauguration finale au début de cette année 2024. Donc je vous invite à parcourir les nouveaux lieux.
Bonjour, que faites-vous ici ?
Eh bien je suis venue pour voir les nouveaux locaux bien sûr et aussi en souvenir de mon père qui a été laitier ici avec son cheval, sa charrette, jusque dans les années 1960-61.
Est-ce que vous vous en rappelez ?
Ah très bien, j'avais 10-11 ans, je me souviens très bien de son parcours. Il partait très tôt le matin, 5h du matin, pour faire la tournée. Et il faisait sa tournée de lait dans le village de Luché. Et ensuite, il venait ici vider le lait, bien sûr. Si, je me souviens très très bien de tout ça, mais ça s'est arrêté à peu près dans les années 60.
On peut vous demander quel était son nom ?
Ah, Monsieur Maurice Lièvre. une belle pensée. Il a arrêté parce que le cheval et les bidons s'étaient dépassés. Et ensuite, ce sont les camions qui sont venus. Et bon, il n'a pas voulu passer son permis de conduire pour conduire le camion. Et il a arrêté à ce moment-là. Mais beaucoup de souvenirs ici. Et mon voisin, Monsieur Durand, il a travaillé à la beurrerie pendant des années également. Monsieur Durand, je tiens aussi à lui rendre hommage.
Bonjour. Ben, je suis venu pour visiter la laiterie et le guide est vraiment très très intéressant. C'est une visite où on apprend plein de choses et sur les laiteries d'autrefois. Et ben, moi, ça m'intéresse parce que je suis fils d'agriculteur. Mon père était producteur laitier et les vaches me passionnent, les laiteries me passionnent et donc. Ça me semblait tout naturel de venir visiter la laiterie ici. Voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez justement maintenant de ce réaménagement avec ces différentes activités ?
Je ne connaissais pas les laiteries avant, mais en tout cas, c'est une très belle réalisation. Et visiblement, il y a beaucoup de monde. Il y a des choses intéressantes à voir et à découvrir.
Bonjour, donc je suis Juliette Grinard, directrice de la communication à la communauté de communes Aunis Atlantique. Donc aujourd'hui, c'est des journées portes ouvertes. Donc effectivement, la nouvelle laiterie a ouvert depuis le début de l'année en 2024. Et puis au fur et à mesure, là, les activités commencent à se développer, les événements. Et on était heureux aujourd'hui d'ouvrir à nouveau les portes aux visiteurs pour qu'ils puissent venir découvrir les activités qui ont lieu ici. Et comme on est sur les week-ends du patrimoine, on a eu également une visite guidée de la compagnie Atemporel pour expliquer un petit peu l'histoire de cette laiterie. C'est un projet qui est conduit à peu près depuis 2015. La laiterie a été achetée par la communauté de communes en 2017. Donc au démarrage, la communauté de communes cherchait un lieu pour créer une épicerie solidaire. Donc voilà, pour faire de l'aide alimentaire aux habitants du territoire. Et puis on a trouvé ce lieu. Et là, on s'est dit que dans ce lieu-là, il y avait un potentiel pour faire finalement un pôle beaucoup plus large autour d'actions sociales, autour des valeurs de la solidarité. Et on a choisi de partir sur un projet majeur avec différentes associations du territoire qu'on a regroupées dans ce lieu qu'on a plaisir à appeler un tiers-lieu, qui est un lieu partagé où on retrouve complètement les valeurs de coopération et de solidarité qui existaient au temps de la laiterie. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs associations. Donc déjà, le CIS d'Aunis Atlantique est dans ses locaux. Hein, donc les agents sont dans ses locaux. Ils ont ouvert une nouvelle activité qui est celle de l'épicerie solidaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, donc, vous avez deux associations qui font de la distribution alimentaire, les Restos du Cœur et Solidarité Courson. Et vous avez, en permanent, hein, je parle, une recyclerie qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc là, il y a des porteurs de projets. C'est l'association Chic on Recycle qui devrait s'installer d'ici la fin de l'année. Voilà pour les permanents. Et ensuite, on accueille différents partenaires pour faire des événements. Donc ça peut être, par exemple, comme aujourd'hui, un centre social qui vient dans la cuisine pédagogique faire un atelier alimentaire. Ou alors, on peut avoir différents partenaires qui vont accueillir dans nos bureaux partagés ou dans les autres espaces qui sont à disposition.
Donc c'est un peu dans ce cadre-là, il y a une communauté de communes, il y a des associations et c'est ouvert, suivant les activités que vous proposez, au public.
C'est tout à fait ça. L'idée du tiers-lieu, c'est de dire qu'on va mettre différents partenaires, activités, acteurs au sein d'un même lieu. Pourquoi ? Pour partager des locaux, mais aussi derrière, pour partager des projets, pour partager des choses et faire en sorte qu'il y ait des nouvelles choses qui se mettent en place sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on a plaisir à appeler ça des tiers-lieux. On en a plusieurs sur le territoire avec des vocations différentes. On a par exemple un tiers-lieu à la Cale qui est vraiment sur une vocation la plus économique où les entrepreneurs vont se retrouver, où il y aura différents événements. Et puis par exemple celui-là, autour plutôt des actions sociales, de la solidarité, où de la même façon, on va aller créer du développement local autour de ces valeurs.
Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes, c'est les journées du patrimoine.
Ça implique une occasion surtout de à nouveau faire découvrir ce lieu. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a du monde parce qu'on a toujours, on sent l'émotion que suscite la renaissance de cette laiterie et tous les gens qui l'ont connue puisqu'elle a été encore en activité assez récemment. Donc vous avez beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui qui ont envie de redécouvrir les locaux. Et puis c'est aussi nous l'occasion surtout de mettre le bénévolat. En fait, c'est ce qu'on voulait faire dans cette journée, de mettre le bénévolat en lumière. Au cours de cette journée, toutes les activités qui fonctionnent ici, elles fonctionnent avec des bénévoles. Et c'est vrai que dans un territoire rural comme le nôtre, mais aussi dans la majorité des territoires, même urbains, le bénévolat, la solidarité des gens et le temps qu'ils vont consacrer à ces actions solidaires, elles sont vraiment majeures pour un territoire comme Aunis Atlantique. Donc ce qui a été aussi important pour nous sur ce lieu, puisque comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont connu la laiterie en activité, il y avait beaucoup d'émotions sur ce lieu, on l'a tout de suite senti, c'est que pendant toute la phase de développement du projet, de 2017 jusqu'à l'ouverture en 2024, on a eu à cœur d'activer le passé historique de cette laiterie et de faire des événements autour de cette activité et de les remettre à l'honneur une fois les locaux ouverts. Et donc effectivement, aujourd'hui, vous voyez dans les murs une exposition qui a été faite par un photographe qui, à l'origine, était exposé dans le bourg de Saint-Jean-de-Diversay et qu'on a rapatrié ici à l'ouverture. Et en fait, c'est tout simplement des portraits photos d'habitants qui ont connu la laiterie et qui avaient une anecdote à faire passer autour de cette laiterie. Et donc, le photographe a fait leur portrait et dessous, le petit verbatim d'expliquer leur petite anecdote. Et on retrouve aujourd'hui toutes ces personnes du coin qui se retrouvent exposées dans la laiterie.
C'est un chouette hommage.
C'est très 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 bien de voir l'émotion quand les gens racontent leurs histoires autour de la laiterie.
Bonjour, je m'appelle Angélique. Je fais partie de l'association Chic en Recycle qui va prochainement ouvrir une recyclerie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un espace pour faire une petite friperie éphémère avec aussi quelques petits objets, quelques petits livres pour le plaisir des petits et des grands.
Alors qu'est-ce que vous proposez dans cette friperie ? Peut-être un peu de tout ?
Oui, absolument. Là, on est surtout sur l'automne-hiver, bien sûr. Donc on a eu deux précédentes petites friperies pour le printemps, l'été, etc. Et normalement, fin novembre, nous aurons une vitrine spéciale Noël, jeux, jouets, peluches, on espère. Bien sûr, on rencontre les gens qu'on connaît parce que c'est beaucoup du bouche à oreille pour l'instant. Mais on se rend compte que cette recyclerie est très attendue. Donc on a des gens qui viennent de près. Donc on a noté bien sûr toutes les communes. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont hors Onis, qui sont parfois même hors bassin Rochelet. Et voilà, donc on a des petits-enfants, on a des grands-parents, on a des gens qui viennent pour des objets un peu plus spécifiques. Comme là, on a deux, trois petits ordinateurs qu'on a remis en route. Donc vraiment, c'est ouvert à tous avec grand plaisir.
Vous êtes combien de bénévoles dans cette association ?
Une petite dizaine pour l'instant. Donc bien sûr, toutes les bonnes volontés sont attendues avec un très très grand plaisir. On recherche des gens qui ont envie de passer un petit temps, qui ont peut-être des idées créatives à nous apporter, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, dans le social, c'est ce qu'il faut. Et puis, si vous avez des capacités, du temps, de l'envie, de l'humour, on est là. Bah, franchement, il nous faut bien ça dans ce monde, non ?
Comment votre association est arrivée ici à s'installer ?
Eh bien, nous avons deux coprésidents, donc Laetitia et Christophe, qui ont décidé ça faisait très longtemps qu'ils avaient cette idée de créer une boutique, ils ne savaient pas encore sous quelle forme. Et lorsque la CDC a lancé un appel à projet, on a répondu, on a eu la chance d'être retenu et l'histoire va bientôt commencer, on espère début 2025. Lorsque vous entrez dans le pôle social, vous verrez qu'il y a un gros endroit où il y a écrit recyclerie, donc ce sera un énorme espace de vente, honnêtement je ne sais plus combien de mètres carrés. On a un endroit qui sera l'endroit de dépôt, où les gens pourront venir avec des espaces dédiés en fonction de chaque outil, soit à recycler, soit à réutiliser. Et puis quelques entrepôts de stockage et un atelier qui servira pour diverses créations, justement en fonction du savoir-faire des gens. On sait déjà qu'on va avoir un peu d'informatique, un repair café, de la couture. Moi personnellement, je suis à fond avec les livres. Et voilà, tout est à créer.
Ça veut dire quoi être à fond avec les livres ?
Ben, ça veut dire que c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Et les partager, c'est merveilleux. Donc déjà, on a la chance d'avoir pas mal de boîtes à livres un peu partout. Et donc nous on va récolter les livres que les gens ne voudront ni vendre ni poser ailleurs et on les vendra à très petit prix. Aujourd'hui par exemple on a des romans qui sont à 1 euro, les livres pour enfants à 50 centimes. Et j'espère qu'on pourra faire peut-être de temps en temps des lectures avec les bibliothèques ou on ne sait pas trop encore, on ne va pas les dire tant que ce n'est pas fait. Moi je préfère attendre. Pour l'instant on ne peut pas encore donner d'horaire puisqu'on n'est pas implanté. Aujourd'hui on est là jusqu'à 14h, nous étions là déjà hier. Je pense que lorsqu'on va faire une vitrine, ce sera certainement aussi sur une journée. Ça, on se base souvent sur 10h, 17h. Mais après, il faut suivre sur les réseaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook beaucoup. Et puis, vous pouvez nous joindre sur Messenger. Donc, vous cherchez Chic, on recycle.
Bonjour, donc Nolwenn Janto. Je travaille au syndicat mixte Cyclade, qui est basé à Surgères et qui s'occupe de la gestion des déchets sur la partie nord-est du département. Donc. Et aujourd'hui, je suis là pour proposer de l'équipement gracieux pour le tri des biodéchets aux habitants de notre territoire. Le tri des biodéchets, donc, c'est le fait de trier en fait, donc, tous les restes alimentaires, tout ce qui va être épluchure, fruits et légumes non consommés, les restes. Et en fait, donc, nos habitants peuvent accéder à des bornes pour pouvoir les jeter. Oui, stand d'information et puis d'équipement pour ceux qui le souhaitent. Voilà. C'est des personnes du territoire qui viennent à l'occasion aussi pour visiter du coup la laiterie. Et puis, alors il y a pas mal de personnes qui sont déjà équipées. Donc voilà, ils me parlent un petit peu de leur ressenti ou viennent un peu se questionner aussi sur le tri de manière générale.
Alors moi, je fais partie du club vélo et je viens ici parce qu'on va aller après à la grève. Visite et en même temps, semaine de la mobilité. Donc je suis venu en vélo de Maran pour aller à la grève. Pas évident de venir de Maran ici en vélo.
Mais je connais la Pigouille. Parce que bon, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour me faire connaître moi-même. Et que donc, j'ai vu apparaître une info disant qu'on avait Pigouille FM, tout ça, qu'il se passait des trucs. Donc oui, je connais la Pigouille. Et puis donc, je suis une habitante du Marais. Alors moi, je suis côté Charente-Maritime, à la Ronde. Donc il y a l'embarcadère de Bazoin qui n'est pas très loin. Et il se trouve que j'ai aussi les chambres d'hôtes et que j'en vois mes hôtes se promener dans le Marais, découvrir le Marais sauvage, à vélo, à pied, à cheval, en barque. En tous les cas, j'adore le Marais. Franchement, je suis là depuis 7 ans et demi maintenant et c'est un espace, mon Dieu, mais qui est tellement reposant, revivifiant, inspirant, tout ce vert, toute cette eau calme et tout. J'adore, je suis amoureuse du Marais Poitevin. Voilà. Ah ouais, non mais c'est génial, hein. C'est vrai. Hein. Alors, je m'appelle Marlène Touka. J'ai un atelier de mosaïque donc à La Ronde, même précisément dans un petit hameau qui s'appelle l'Angle d'Oie, donc qui fait partie de la commune de La Ronde. Et donc je propose des cours d'initiation, des cours de perfectionnement. J'organise des stages de mosaïque pour tout le monde, on va dire entre 6 ans et je sais pas, 106 ans par exemple. Bon, plus si affinité, mais voilà. Donc voilà, donc les gens peuvent venir découvrir la mosaïque, venir faire un projet, une table à décorer. J'en sais rien, un tableau, enfin, ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc moi je les guide, je leur apprends les techniques, je leur offre une quantité de matériaux à découvrir. Ils apprennent à se servir des différents outils parce qu'il y a beaucoup d'outils et puis ils repartent avec leur création et on a passé un moment créatif, ludique, joyeux dans le calme du Marais Poitevin. Je serais tout à fait ravie de participer à toutes les initiatives que je trouve sympas et qui font vivre le Marais, parce que c'est important, quoi, vraiment. En fait, là, on m'a sollicité parce que, je sais pas, une bonne âme a donné mon nom en disant « Mais tiens, mais Marlène, elle fait de la mosaïque, ça pourrait être sympa, puis elle peut utiliser des matériaux de recyclage. » Donc voilà, en fait, l'idée, c'est que ce soit un truc un peu vertueux, quoi. Donc la Cyclade a demandé aux agents de récupérer dans les différentes déchetteries du carrelage, et donc à partir de ça, le défi c'était de se servir de matériel de récupération pour faire le logo de la nouvelle laiterie et en faisant participer les habitants. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais c'est la seule fois où je serai là aujourd'hui. On pourra peut-être me croiser parce que chic, on recycle, je suis bénévole. Donc, moi quand il y a des bons plans, je suis là de toute façon. Donc, si je peux participer à la vie du territoire.
Et si on veut continuer à faire du mosaïque avec vous ?
On me cherche éventuellement sur Google, et mon ami ou pas. Et donc on tape cours de mosaïque Charente-Maritime. En général, hop, on me trouve facilement. On regarde le numéro de téléphone. On prend son téléphone, on m'appelle et on me dit ah « bah, j'aimerais bien, quand est-ce que je peux venir ?» Et puis bah, on convient d'une date et vous venez. Et puis voilà, on crée ensemble. Donc vraiment par téléphone, par Facebook, par Instagram. Par mail, enfin de toute façon, on me trouve. L'atelier s'appelle Atelier Mosaïque Marais Création et moi je suis Marlène Touka. Je suis de la région Paris. Alors je suis originaire en fait de Saint-Étienne dans la Loire. Allez les Verts. Enfin, le vert ça reste un truc, voilà. Mais j'ai grandi effectivement à Paris et en région parisienne. Et quand j'en ai eu marre de la foule, du bruit, de courir tout le temps, des embouteillages, etc. Avec mon chéri, j'ai dit, viens, on s'en va. Et puis, on a décidé que ce serait en dessous de la Loire. Parce qu'en dessous de la Loire, il se passe un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais il se passe un truc. Et nous voilà rendus dans le Marais Poitevin. Le calme, le silence absolu, les petits oiseaux, la nature, la verdure. Le bonheur, le paradis sur Terre. C'est pas la peine d'aller courir à l'autre bout du monde. Ça, en plus, on ne pourrit pas la planète. Et donc, voilà, le Marais, c'est très bien.
Marlène, je vous invite franchement très vite au studio de Pigouille Radio.
Ouais. Mais avec grand plaisir, ce sera avec grande joie. Ouais, ouais, super. Merci beaucoup.
C'était On vous embarque, où nous avons découvert ensemble la nouvelle laiterie de Saint-Jean-de-l'Iversé et son rôle central pour la communauté d'Onis Atlantique. Plus qu'un simple monument historique, cet espace est aujourd'hui un lieu de mutualisation, de solidarité et de projets citoyens, porté par l'engagement de nombreux acteurs locaux. Des portraits émouvants d'anciens laitiers aux actions des associations, le CIAS, les Restos du Cœur. La nouvelle laiterie est une belle illustration de la force collective qui anime notre territoire. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle immersion dans les richesses du Marais Poitevin.
On vous embarque,
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 on vous embarque.
Culture,
on y était.
Concert,
on y était.
Sortie,
on y était.
Spectacle,
on y était.
Festival,
on y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.